7h23, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a présenté hier le plan, principalement sanitaire, pour la rentrée scolaire. Beaucoup de parents posaient des questions. On a maintenant plus de détails. Il est avec nous ce matin. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Sur le plan sanitaire, c'est assez clair et de façon générale, on peut dire que ça a été bien reçu, là, c'est-à-dire le port du masque pour les enfants de cinquième année et plus, c'est-à-dire que la notion de bulle qui disparaît, la classe qui devient l'objet de référence. Je pense que tout ça est assez clair. Je vais juste vous envoyer trois ou quatre questions que les auditeurs me posent. Est-ce qu'on comprend bien que pour les enfants dont le port du masque est requis dans certaines circonstances, ce sont les parents qui fournissent le masque?
Oui, exactement. Le masque couvre-visage devient un peu comme une pièce de vêtement, là, comme la tuque, les gants, les mitaines. Ça peut arriver là, que des familles vulnérables aient vraiment là, de la difficulté à se payer des masques. Il y en aura toujours, évidemment, dans les autobus pour en fournir à ceux qui n'ont pas ou qui les oublient. Il y en aura dans les écoles aussi. Et un peu, supposons, comme un sac à dos là, qui est normalement fourni par les familles, mais qui, parfois, est fourni par des organismes communautaires pour des familles qui sont dans le besoin. Mais on pourra passer par nos organismes communautaires pour en fournir à des familles pour qui vraiment les enjeux financiers sont importants.
Et dans le cas d'un refus d'un parent qui ne veut pas que son enfant porte un couvre-visage, qu'est-ce qui se passe?
Bien, va falloir entamer le dialogue et convaincre la famille parce que c'est comme un code vestimentaire, c'est comme un code de vie à l'école. On peut pas dire, ben moi, je respecte telle règle, je respecte pas telle règle. C'est pas un buffet de règlement. C'est important. Ça fait partie des conditions qu'on donne pour rassurer tout le monde, pour permettre un retour en classe. Donc, ça sera pas négociable, les règles sur le port du couvre-visage.
Il y a beaucoup de parents puis des enseignants aussi qui me soulèvent des problèmes d'aération, de ventilation dans beaucoup d'écoles au Québec. C'est quoi le portrait ce matin de ça, puis quelles sont les mesures à venir?
Bien, on me dit qu'il y a quand même une grande opération de nettoyage qui s'est faite cet été. On avait mis à la disposition plus $1 milliard à notre réseau scolaire, en plus des travaux là, d'agrandissement et de construction, pour faire une mise à niveau. Là. Ça a été trop longtemps négligé. Je sais que beaucoup d'écoles et de centres de services scolaires ont procédé à toutes sortes de travaux cet été. Je pense que les conduits d'aération deviennent une priorité au moment où on se parle. Donc, il y a sans doute d'autres mises à niveau qui vont se faire rapidement. Ceci dit, j'ai confiance là, que nos écoles sont suffisamment salubres et propres, surtout avec l'argent qu'on a investi depuis l'arrivée du gouvernement au pouvoir là, pour accueillir tous nos élèves.
Bon, là, j'ai beaucoup de parents qui, je vous donne ça en vrac, là, des enfants immunosupprimés ou des enfants qui n'ont pas de problème de santé, mais un des deux parents est plus vulnérable, qui se disent « Est-ce que mon enfant va aller à l'école? J'ai peur pour l'enfant, j'ai peur qu'il me ramène le virus. » On fait quoi avec des enfants donc qui ont des problèmes de santé ou des parents qui sont plus vulnérables?
Bon, exactement. Ce sont de bonnes questions, des bonnes inquiétudes. Donc, un enfant qui aurait un problème de santé lié à la COVID, documenté par un médecin, pourra rester à la maison sur une période même de long terme jusqu'à ce que le danger disparaisse, qu'on ait un bon médicament ou un bon vaccin avec des services d'enseignement à distance de qualité. J'appelle ça hier ma garantie, là, équité, qualité, avec des normes, des balises nationales que tout le monde reçoive. Un nombre déterminé, par exemple au secondaire, 15 heures de cours en visio par semaine, disponibilité des profs au moins 2 heures par jour pour répondre aux questions, donc etc., etc. Et c'est la même chose pour un élève qui aurait, supposons, aucune vulnérabilité de santé, mais qui habite, je sais pas, avec sa mère, qui suit des traitements, qui fait qu'elle est immunosupprimée, puis ça pourrait présenter un danger pour elle ou pour un autre membre de la famille. Donc, ça couvre, disons, autant les enfants que les enfants qui vivent avec quelqu'un sous leur toit qui ont des problèmes de santé liés à la COVID.
Il y a toute la question des enfants qui ont des difficultés, pour qui la période de confinement a peut-être même aggravé le problème. On sait que régulièrement, on manque de profs. Régulièrement, on manque de spécialistes dans les écoles. Là, vous n'avez pas une baguette magique pour faire apparaître des profs dans l'écran d'ordinateur puis des spécialistes pour donner plus de ressources aux enfants qui en ont besoin.
J'aimerais ça, M. Arcand, là, mais non, c'est pas possible. Pour les enseignants, on a posé beaucoup de gestes là, depuis qu'on est là, depuis un peu plus de presque 2 ans maintenant, pour contrer la pénurie, mais il faut se le dire, là, ça va prendre encore quelques années, même si on recrute de plus en plus de nouveaux talents, des gens qui n'avaient peut-être pas le bac en éducation, qui avaient, supposons, un bac en littérature, qui peuvent enseigner en suivant par les cours du soir des notions de pédagogie. On a ouvert cette porte-là. Donc, on est en train de régler le problème. C'est pas réglé encore au moment où on se parle. Ça avance, là, mais c'est pas encore réglé. Pour ce qui est des professionnels, ben, il y en a vraiment plus dans le réseau qu'avant. Écoutez, l'année passée, on avait dit qu'on voulait en ajouter 650. Des gens nous disent « c'est impossible, vous n'y arriverez pas ». On a ajouté plus de 700 des professionnels qui donnent des services directs aux élèves. Donc, en une seule année, c'était jamais arrivé. Et puis, on va continuer. Donc, ces 700-là de l'an passé, là, qui étaient nouveaux dans le réseau, seront là cette année. On va continuer d'en ajouter dès le mois de septembre.
OK. Là, je veux vraiment vous parler de pédagogie. J'ai deux volets à vous proposer ce matin. Le premier, des gens du milieu, là, du milieu de l'éducation, qui me donnent des exemples concernant les cours à option. Ou semble-t-il, vous souhaitez limiter le nombre, les fameux programmes sport-études, on ne sait pas trop si ça va se faire, dans quelles conditions ça va se faire. Puis là, on donne plein d'exemples d'options qui sont offertes et qui permettent à des élèves d'aller plus loin d'anglais, langue seconde enrichie, des études, en fait, qui ouvrent davantage de portes même vers les études collégiales. Il arrive quoi avec les cours à options et le sport-études?
Ce sont deux dossiers distincts qui sont reliés, parce qu'ils sont comme des petits plus, des ajouts, des facteurs de motivation, puis des choses qui amènent nos jeunes à se dépasser puis à se motiver. D'abord, les cours à options. Ça, jusqu'en secondaire 3, grosso modo, là, il y a un tronc commun dans les cours français, maths, etc. Quand on arrive en secondaire 4 et 5, il y a des cours à options qui sont pas là, des activités parascolaires, mais qui sont des options qu'on offre aux élèves, à savoir s'ils veulent, supposons, s'en aller au cégep en sociologie ou s'en aller au cégep pour devenir, pharmacien, bien là, c'est des cours différents en sciences, en physique, en mathématiques. Ça, c'est des options qu'on doit absolument maintenir là, pour garder les portes ouvertes à nos jeunes, pour les aider à se rendre faire le métier qu'ils veulent. Dans certains cas, ça peut poser un problème parce que des élèves qui sont dans le même cours, on va dire, d'art, mais pourraient se séparer puis changer de classe, parce qu'il y en a qui vont en maths régulière, l'autre en maths forte. Ça, c'est pas possible en temps de pandémie. Il faut avoir des cellules de classe là, étanches. Il ne faut pas que les jeunes changent de classe. C'est pour ça que dès juin, on avait dit que malheureusement, on est obligé d'accepter qu'en secondaire 4 et 5, ça se peut qu'il y ait des écoles, il y ait des fois des jeunes qui aient à l'école seulement un jour sur deux. L'autre jour, ben, ils ont des travaux, des lectures, ils continuent d'étudier.
Mais attendez, là, je veux juste comprendre. Est-ce que l'option disparaît ou l'option est offerte de façon différente?
L'option ne peut pas disparaître. C'est ce que je vous dis. Ces cours-là doivent être offerts parce que ça fait partie là, du programme okay. de formation de l'école québécoise. C'est pas comme un sport-études ou une activité parascolaire. C'est important de maintenir ces options-là pour les jeunes. Et c'est au nom de ça qu'on accepte, qu'on fait le compromis difficile à faire, qu'en secondaire 4 et 5, ça se peut que votre enfant aille à l'école jusqu'à un jour sur deux. Un programme sport-études, art-études, on veut les maintenir. On souhaite qu'ils soient là. On sait que c'est important. Mais ça pose d'autres contraintes, hein, on le sait bien, sanitaires, logistiques, des locaux supplémentaires à désinfecter entre chaque groupe, des locaux à nettoyer, des profs supplémentaires. Donc, si une école, un centre de service est capable de remplir toutes ces conditions-là, mais tant mieux, faisons-le, le sport-études, l'art-études, gardons-le. Mais ça se peut qu'avec les contraintes actuelles, ça fasse partie des compromis qu'on fait et qu'on ne puisse pas maintenir ces programmes.
OK, mais dans les faits, M. Robert, ça veut dire que sport-études, art-études, là, pas beaucoup d'élèves qui vont s'en prévaloir, en tout cas pour cette première partie de l'année scolaire. Là.
Je vais avoir vraiment un portrait, là, parce que les décisions se prennent là, encore au moment où on se parle. Je vais avoir un portrait fin août de tout ce qui s'est passé dans le réseau, finalement, des compromis qu'on a dû faire. Outre, il n'y a pas de compromis sur le programme de formation québécoise, là, mais des compromis sur ce type de programme-là, je vais avoir un portrait à la fin août, juste avant la rentrée scolaire.
OK. Autre cas soumis par plusieurs parents, mais je vais pour l'illustrer, prendre un cas. Là. C'est un monsieur qui m'écrit. Son fils est autiste, il a 11 ans. Et c'est un autiste lourd, handicap physique, donc important aussi. Et il a besoin d'aide pour s'habiller, se nourrir. C'est sûr qu'il ne comprend pas ça, la distanciation sociale. Mettre un masque, il ne sait pas comment il va réagir. Puis il a besoin de retrouver la régularité de l'école. On fait quoi avec un enfant comme lui?
Ce sont des enfants pour lesquels on ne peut pas imposer les mêmes règles qu'à tous. Là. C'est, je veux dire, il ne comprend pas cette règle-là. Et on a beaucoup d'ouverture dans ces cas-là. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui dit « ben moi, je veux pas porter le masque ». Ce sont des enfants pour lesquels on accepte de faire des accommodements. Souvent, ce sont des enfants qui ont des gens du personnel scolaire qui vont porter de l'équipement de protection de toute manière. Dès le printemps dernier, on avait réouvert ces écoles-là spécialisées pour des enfants qui ont des besoins très, très particuliers. Puis, par contre, ce sont les profs ou des fois les infirmières qui travaillent avec ces jeunes-là, mais portent des blouses, portent des lunettes, portent des masques de procédure, mais il n'est pas question de priver ces enfants-là là, d'aller à l'école.
OK. Quelques questions rapides pour conclure. D'abord, est-ce que vous savez combien de profs, pour des raisons de santé, des raisons d'âge, seront pas présents en classe, donc physiquement, et vont se tourner vers une offre virtuelle?
Non, j'ai pas le portrait okay. À ce moment-ci parce que les décisions se prennent au moment où on se parle et les enseignants, dans certains cas, regardent là, les informations qu'on a rendues sur le public hier. Certains vont contacter leur médecin en disant, ben, supposons, bon, je suis asthmatique, est-ce que c'est dangereux pour moi la COVID? Est-ce que je dois travailler de la maison ou pas? Donc, les enseignants qui obtiendront là ces autorisations-là d'être à la maison parce qu'ils ont vraiment une vulnérabilité liée à la COVID, se verront confier des groupes pour enseigner à distance à des enfants qui, eux aussi, sont à la maison puis ont droit d'avoir des cours à distance.
OK. Un cas concret qui m'est soulevé là, par beaucoup d'auditeurs. Là. Par exemple, on le sait, là, les enfants peuvent avoir des rhumes, ça ne veut pas dire qu'ils ont la COVID. Est-ce que vous avez envisagé la prise de température, par exemple, à l'arrivée à l'école, comme on voit dans certains pays? Comment on va gérer ça? Là? Dans les CPE, c'est le cas aussi, là, les enfants qui arrivent en tout ce temps, ça ne veut pas dire qu'ils sont porteurs du virus ou qu'ils ont développé la maladie. Là.
Non, effectivement, tout symptôme n'a pas la même gravité. Hier, justement, c'est un élément important, là. C'était de diffuser la même information à grandeur du Québec. Donc, on a diffusé hier ça sur Internet, là, sur québec.ca/rentrée, mais ça va être envoyé vraiment à toutes les écoles. Pour avoir la même information pour tout le monde, ça va être envoyé par votre école. Donc, chez vous, vous allez recevoir ça comme parent, là, une petite feuille à coller sur le frigo. Quels symptômes à surveiller? Lesquels sont plus graves? Donc, juste un petit nez qui coule, là, on ne s'inquiète pas trop pour ça. Mais par contre, s'il y a de la fièvre, ben là, c'est une chose, on le garde à la maison. S'il y a une toux profonde qui s'aggrave, on le garde à la maison. Mais là, de toute façon, tout le monde va recevoir ces informations-là. On appelle ça la marche à suivre. Et puis, les symptômes à surveiller, qui appeler si jamais on a des inquiétudes. Tout le monde va avoir ces informations-là avant la rentrée.
OK. Est-ce que vous envisagez de tester beaucoup d'enfants? Bon, des enfants qui ont des symptômes, je comprends, mais de façon aléatoire aussi.
Il n'est pas prévu de faire des tests aléatoires pour des personnes qui sont asymptomatiques. Je veux dire, de toute façon, ce que nous disent là, les données en ce moment, c'est que les jeunes sont très, très peu nombreux à l'avoir. Ils l'attrapent moins, puis ils ont moins de symptômes, puis quand ils l'ont, ils propagent moins la maladie. Donc, faire des tests comme ça à des gens là, qu'on pense qu'ils n'ont pas la COVID, c'est pas dans les plans actuels. Par contre, ce qu'on veut, c'est s'assurer que quand on a besoin d'un test, quand on a une inquiétude, quand un jeune a des symptômes, bien, que ça soit très, très, très facile. Ça a été l'engagement pris hier par M. Dubé, qui était présent à la conférence de presse, là, que d'ici 3 semaines, d'ici la rentrée, les tests sont encore plus facilement accessibles et les résultats des tests soient plus rapides aussi. Donc ça, c'est la part qui appartient à mon collègue, M. Dubé.
OK. Dernière question. Est-ce que vous avez consulté les études internationales au sujet, je vais dire ça comme ça, là, de école, foyer d'éclosion potentielle, lieu de contamination important? Autrement dit, est-ce que l'école, selon la science actuelle, les études qu'on connaît, est un endroit qui est un vecteur important pour la propagation du virus ou pas?
Ce que nous dit l'étude en ce moment, là, c'est que non. Ça ne dit pas qu'il n'y a aucun cas, mais sincèrement, ce n'est pas les écoles qui sont des lieux de propagation. Très, très peu d'éclosion. Il y a des cas qui arrivent des fois, les élèves qui vont à l'école. Bien souvent, ils l'ont attrapé ailleurs. Ils l'ont attrapé à la maison. Puis bon, ils arrivent à l'école, ils sont malades, on les retourne à la maison, mais ce n'est pas à l'école qu'ils l'ont attrapé. C'est ce que nous dit la science en ce moment. C'est ce que nous disent les études. Bien que ça arrive, évidemment, qu'il y ait de la propagation à l'école, mais c'est plus anecdotique. Ensuite, notre expérience de notre belle réussite de la réouverture des écoles aussi en mai à l'extérieur du Grand Montréal nous a montré qu'il y avait, somme toute, très peu de cas. Il y avait plus de 100 000 élèves. Et puis, il n'y a jamais eu plus de 44 élèves, je pense, qui l'ont eu à la fois. Et parmi les élèves qui l'avaient, bien souvent, ils l'avaient attrapé à l'extérieur de l'école. Ils ont été retirés avant de le donner à qui que ce soit. Donc, je pense qu'on a prouvé qu'on est capable de réouvrir nos écoles, de prendre soin de nos élèves, puis de prendre soin de notre personnel.
Merci, M. Roberge. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Jean-François Roberge est le ministre de l'Éducation. Et, bon, vous connaissez les règles. Sur le plan sanitaire, c'est assez clair, c'est sûr. Là, c'est-à-dire que cinquième année et plus, dans l'autobus scolaire, port du masque. Vous allez équiper vos enfants d'un couvre-visage. Puis là, c'est une question aussi de ce que j'appelle de respect, de civisme par rapport aux autres. Puis pour ce qui est de l'enseignement, beaucoup de parents qui m'écrivent pour le sport-études puis qui me disent « Hey, ça se passe à l'extérieur, comment on va gérer ça pour la piscine, pour l'aréna, pour le terrain? » Bien là, ça va se passer à l'échelle locale. Est-ce que ça va être reporté dans certains cas? Peut-être. Est-ce qu'on va être capable de conjuguer? Bonne question, mais il y a tout ce volet-là. Mais le principe fondamental, c'est quoi? C'est que peu importe le statut de votre enfant, peu importe sa condition, je pense que des enfants ont besoin de retourner physiquement à l'école. Ça, c'est majeur. Puis là, il faut que tout le monde y mette du sien. Les kids, les parents, puis les profs.